présenté par Eve Barta.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Hier soir, on a appris le décès de la candidate du Love Story, une première émission de télé-réalité en France dans les années 2000, Loana Petrucciani. J'avais envie de revenir un peu sur son parcours et puis de sa relation avec les médias notamment. Et puis j'ai pu échanger avec Manolo Mlekuz, qui est candidat à l'élection présidentielle 2027. Il n'a pas de couleur politique et a monté son parti Trajectoire avec l'objectif de former une assemblée constituante. Avant tout, voici Millionnaire de Kélis avec André 3000. I said her from the city, so her got to be witty witty. She said, him from the country, so him got to be funky, funky.
Cheese, there are rats. Wherever there are rats, there are cats. Wherever there are cats, there are dogs. If you got the dogs, you got bitches. Bitches always out to put their paws on your riches. If you got riches, you got glitches. If you got glitches in your life computer, turn it off and then reboot her. Now you back on. Can't just put the cap on the old bottle. Once you pop it, that'll spoil it. Gone and drink it and enjoy it. Oh, mama, I'm a millionaire.
La disparition de Loana Petrucciani annoncée hier agit comme un miroir brutal, celui de notre rapport collectif à la célébrité, aux médias et à la fragilité humaine. Car Loana, ce n'était pas seulement une figure de la télévision, c'était en quelque sorte un symbole. Le symbole d'une époque, d'une bascule et peut-être aussi d'un emballement dont nous n'avons jamais vraiment mesuré les conséquences. Pour comprendre Loana, Il faut revenir au début des années 2000. À cette époque, la télévision française change de visage. En 2001, une émission débarque et bouleverse tout, Love Story. Un concept inédit, importé d'autres pays, qui consiste à enfermer des anonymes dans un appartement, en l'occurrence ici une maison, sous l'œil permanent des caméras. Une expérience sociale, disait-on. Un divertissement, pensaient certains, un choc culturel, assurément. Et au cœur de ce phénomène, il y a Loana. Elle n'est pas une célébrité à la base, elle n'a pas été formatée pour les plateaux télé. Elle arrive avec sa spontanéité, sa vulnérabilité, son histoire déjà marquée par des blessures. Et très vite, elle devient la figure centrale du programme. Le public s'attache à elle, elle touche, elle intrigue, elle divise aussi. La fameuse scène de la piscine, devenue iconique, la propulse définitivement dans une autre dimension. Du jour au lendemain, Loana n'est plus une anonyme, elle est une star fabriquée en direct sous les yeux des millions de téléspectateurs. Mais cette ascension fulgurante cache une réalité bien plus sombre. Car ce que Love Story inaugure, c'est aussi une nouvelle forme d'exposition, totale, permanente, sans filtre. Loana n'a pas eu le temps d'apprendre à gérer cette notoriété. Personne, à l'époque, ne mesurait vraiment ce que ça impliquait, ni les producteurs, ni les médias, ni même le public. Et très vite, la machine médiatique s'emballe. Loana devient un sujet, un personnage, une histoire que l'on raconte, que l'on commente, que l'on dissèque. Sa vie privée n'existe plus vraiment. Chaque chute, chaque difficulté, chaque moment de fragilité devient un contenu, une matière à débat, à audience. Et c'est là que commence le problème. Car si les médias lui ont offert une visibilité exceptionnelle, et il faut le reconnaître, des opportunités aussi, ils ont également contribué à construire une image parfois réductrice, souvent caricaturale. Loana, tour à tour présentée comme une héroïne populaire, puis comme une figure de déchéance. On l'élève, puis on la regarde tomber. Et cette chute, justement, va être longuement exposée. Problèmes personnels, difficultés psychologiques, addiction, tout est raconté, tout est montré, parfois avec une forme de voyeurisme qui, aujourd'hui, interroge profondément. Où s'arrête l'information? Où commence l'exploitation? Loana devient malgré elle le symbole d'une dérive médiatique, celle qui consiste à transformer la souffrance en spectacle. Mais réduire son parcours à cela serait injuste. Car Loana, c'est aussi une femme qui a essayé de se relever à plusieurs reprises. Elle a écrit, elle a témoigné, elle a tenté de reprendre le contrôle de son récit. Elle a aussi parlé de sujets importants, la violence, la solitude, les difficultés après la célébrité. Des réalités que beaucoup d'anciens candidats de télé-réalité ont vécues, mais que peu ont osé exprimer publiquement avec autant de sincérité. Elle a en quelque sorte ouvert une voie, même si cette voie a été douloureuse. Aujourd'hui, avec le recul, Love Story apparaît comme un moment charnière, une expérience fondatrice de la télé-réalité moderne, avec tout ce que cela comporte, la fascination pour l'intime, la rapidité de la célébrité, et la brutalité de l'oubli. Et Loana en a été le visage le plus marquant. Sa disparition nous oblige à nous poser une question simple mais essentielle. Avons-nous appris quelque chose? Car les mécanismes sont toujours là, peut-être même amplifiés avec les réseaux sociaux. L'exposition est encore plus immédiate, plus massive, les jugements sont plus rapides, et la frontière entre vie publique et vie privée est toujours aussi fragile. Loana n'était pas parfaite, comme personne, mais elle était humaine et c'est peut-être cela que nous avons parfois oublié. Derrière l'image, derrière les unes de magazines, derrière les séquences télévisées, il y avait une personne avec ses forces, ses failles et ses combats. Sa vie raconte quelque chose de nous, de notre fascination pour les histoires extraordinaires, mais aussi de notre difficulté à accompagner celles et ceux que nous plaçons sous les projecteurs. Alors aujourd'hui, au moment de lui dire adieu, il ne s'agit pas seulement de se souvenir de la star de Love Story, il s'agit aussi de reconnaître ce qu'elle a traversé, de questionner le rôle de chacun, médias, public, industrie, a pu jouer dans son parcours. Et peut-être, enfin, de faire preuve d'un peu plus de retenue, d'un peu plus d'humanité envers celles et ceux qui, demain, connaîtront à leur tour cette lumière aussi intense qu'éphémère. Parce qu'au fond, l'histoire de Loana n'est pas qu'une histoire de télévision, c'est une histoire de regard, le nôtre. On écoute tout de suite Erotica de Madonna. We'll be right back.
place tonight. I'd like to put you in a trance. If I take you from behind, push myself into your mind when you least expect it, you try to reject it. If I'm in charge and I treat you like a child, will you let yourself go wild? Let my mouth go where it wants to. Give it up, do as I say. Give it up and let me have my way. I'll give you love, I'll hit you like a truck. I'll give you love, I'll teach you how to. I'd like to put you in a trance. Oh, love.
Romance. Put your hands all over my body.
Only the one.
يا محلاها هالطيويلة يا محلاها هالطيويلة يا محلاها هالمزيونة يا محلاها
sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. On vient d'écouter Crystalline de Björk, remixé par Omar Suleiman.
Comme je le disais dans l'introduction, je suis aujourd'hui en compagnie de Manolo Mlécluse, candidat à la présidentielle de 2027. Manolo a donc deux particularités. Un, il a 19 ans et deux, il n'a ni programme ni parti. Bonsoir Manolo.
Bonsoir.
Depuis quand tu suis la politique en fait et pourquoi ?
Ça fait depuis que j'ai 10 ans, depuis la présidentielle de Donald Trump. Au début, c'était vraiment un divertissement. Je regardais les chaînes d'info comme on peut regarder des dessins animés, j'exagérais, mais en tout cas, il y avait cette idée que ça me divertissait d'avoir des histoires, des affaires. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, des clashs. Et puis ensuite, je me suis engagé de plus en plus. J'ai compris l'importance qu'a la politique dans nos vies. Et comme j'ai quelque chose, j'aime bien parler, disons, j'aime bien penser aussi. Et du coup, c'est quelque chose qui me convenait plutôt bien. Et donc, j'ai pris plaisir à débattre avec des amis, avec des professeurs, jusqu'à en faire à peu près toute ma vie, hein, maintenant, ces dernières années. Mais ça fait depuis que j'ai 10 ans que je m'intéresse à la politique.
Du coup, pourquoi à ton tour t'être lancé dans ce grand bain?
Parce qu'en fait, j'avais pas. C'est quand même très particulier, puisque la politique m'intéresse énormément, elle occupe une place très importante dans ma vie, et pourtant, sur la prochaine présidentielle, je n'avais pas. Enfin, il n'y avait aucun candidat qui portait mes idées. Vraiment aucun. C'est-à-dire que moi, je pense que le système politique actuel, il n'est pas assez sain, que la population n'a pas assez de place à l'intérieur de celui-ci, et que les dernières initiatives de démocratie participative n'ont pas du tout été assez fructueuses. Je pense aux grands débats ou aux conventions citoyennes. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité de démocratiser notre système politique, et pourtant, personne ne porte assez cette conviction. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager. C'est pas un choix de le faire à 19 ans, c'est uniquement la conséquence du fait qu'il n'y ait aucun autre candidat qui me donne envie de s'engager. Et du coup, je me suis dit, s'il y a personne qui fait ce que tu aimerais faire, autant le faire toi-même.
Ça aurait pu être maintenant ou plus tard, quoi. C'est vraiment l'urgence du moment.
Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais après, le fait d'être jeune aussi, ça permet plein de choses. Moi, j'ai aucune responsabilité, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille. Donc je peux mettre ma vie de côté pendant 2 ans et prendre un camion et faire un tour de France. C'est pas quelque chose que tout le monde a la chance de faire, j'en suis conscient. Et c'est aussi cet âge qui me permet ça. Et puis en plus, médiatiquement, c'est utile aussi d'être jeune. Moi, il y a pas mal de médias qui s'intéressent à la candidature uniquement pour essayer de trouver le plus jeune candidat à l'élection présidentielle. Donc disons que mon âge étonnant peut permettre d'attirer une curiosité qui permet ensuite pour moi de parler de fond et de parler de ce que je défends. J'ai un programme d'ailleurs, si je me permets.
Ah oui, pardon, j'ai confondu alors peut-être.
Il n'y a aucun souci, mais moi j'ai un programme.
Oui.
Mon programme, c'est de convoquer une assemblée constituante.
Oui, c'est ça.
Donc, une assemblée qui rédigerait une nouvelle constitution et ce serait composé d'un échantillon représentatif. Et une fois qu'elle a rédigé cette nouvelle constitution, la constitution serait soumise à référendum. Donc voilà.
Enfin, c'est ta seule idée du programme, du coup
En fait, le programme est structuré de telle sorte à ce que moi, si j'arrive au pouvoir, je suis élu président de la République, je dissous instantanément l'Assemblée nationale, et donc il y a des élections législatives, et le parti qui arrive en tête des élections législatives, je nomme son président Premier ministre. Et donc, c'est à lui de mener des politiques économiques, sociales, diplomatiques.
C'est un projet
qui est uniquement institutionnel. Uniquement institutionnel.
Et t'as jamais été sur une liste électorale, au municipal par exemple, ou je sais pas, département, peu importe?
Non, jamais. J'ai milité, moi, pour des partis politiques, donc plutôt à gauche, ça a été le Parti Socialiste et la France Insoumise. Mais après, sinon, ça fait qu'un an que je suis majeur, donc je pouvais pas être sur les listes. Et puis ensuite, mon engagement, il a jamais été vraiment à échelle locale, parce que c'est hyper important les municipalités, mais le problème, c'est que sur les questions institutionnelles, donc sur les questions de démocratiser notre système politique, elles n'ont pas vraiment de pouvoir. Il y a toujours ce plafond de verre en haut qui sera la politique nationale. Donc c'est pour ça que je porte mon engagement directement à l'échelle de l'élection présidentielle et pas sur des petites mairies, parce que ce serait moins pertinent sur cet engagement-là.
Et tu disais donc ton objectif, c'est une assemblée constituante, donc passer à une 6e République.
Pas forcément. Bon. Okay. Ouais, mon projet, c'est de rédiger une nouvelle constitution, mais qui sera ensuite soumise à référendum.
Okay.
Donc si jamais la nouvelle constitution elle est refusée à référendum, on reste sur la 5e, mais au moins on a eu le choix, et c'est le plus important en démocratie, c'est d'avoir une autre alternative.
Et justement, si jamais cette constitution elle n'était pas validée avec un référendum, qu'est-ce que tu ferais pendant les dernières années du mandat?
Moi, je démissionne. Okay. Qu'elle soit acceptée ou non, je démissionne au bout de 2 ans.
Ok.
Et après ça, du coup, mon premier ministre est aussi démis de ses fonctions.
Ok.
Mais oui, je ne vais pas rester au pouvoir alors même que la constitution ait été refusée, ça n'a pas vraiment de sens.
Et si jamais elle était acceptée, tu démissionnerais aussi?
Je serais bien forcé, pour le coup, je le ferais de bon cœur, mais à partir du moment où on passe à un nouveau régime politique et que du coup, on change complètement les concentrations de pouvoir, je ne vais pas rester président de la République. Donc, quoi qu'il arrive, je pars que la Constitution soit acceptée ou non.
Et passer à cette 6e République, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le programme de la France insoumise. Pourquoi pas rester chez eux si tu as déjà milité avec eux et, pourquoi pas
faire ça? Alors, moi, quand j'ai milité chez eux, il y a eu pas mal de mauvaises expériences sur le plan des méthodes. J'avais l'impression qu'ils devenaient ce qu'ils combattaient à la base, quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Et même là, encore récemment, il y a quand même pas mal de problèmes avec la France insoumise. Et après, c'est un parti quand même que je respecte, mais sur le plan institutionnel, on n'est pas d'accord non plus, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est bien de dire qu'on veut passer une 6e République, mais après, la question importante, c'est quelle est la composition de l'Assemblée constituante qui rédige cette nouvelle constitution. C'est-à-dire qu'on pourrait proposer que ce soit uniquement des parlementaires de l'Assemblée nationale. Selon moi, ce serait pas vraiment juste. Donc en fait, sur les compositions, on s'éloigne. C'est-à-dire que moi, je propose que ce soit un échantillon représentatif, donc une version miniature de la société française, 500 personnes, 10 000 personnes, qui représentent la société dans son ensemble. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est un mix entre des parlementaires et des gens qui seraient tirés au sort. Selon moi, c'est beaucoup moins pertinent. Et puis ensuite, il y a un constat sur lequel on diffère, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que la constitution actuelle donne des concentrations de pouvoir beaucoup trop aberrantes à certains organes, et qu'en plus de ça, le peuple n'a pas assez de place dans le débat politique, je vais pas proposer un programme économique et social que je mettrai en place à travers une constitution que je conteste. Alors que c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont 600 mesures qu'ils veulent mettre en place dans la 5e République, alors même qu'ils la condamnent. Et ça, cette ambiguïté, je l'aime pas vraiment. Et c'est aussi pour ça que je m'en éloigne. Et en plus, j'ai pas envie que le sujet institutionnel soit partisan. J'ai envie que ce soit un sujet qui soit justement consensuel, qui arrive à ramener derrière lui et qu'on se rende compte qu'on est dans une crise de régime, parce que notre régime politique aujourd'hui, il n'est pas en capacité de produire une force stable au pouvoir. On le voit bien, hein, les premiers ministres s'enchaînent, on doit faire appel de plus en plus au 49-3. Et du coup, j'aimerais qu'on soit tous conscients, peu importe son appartenance politique, de cette crise de régime et qu'on essaye de trouver une solution collectivement, plus que cette solution soit clivante parce qu'elle vient d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique.
Et donc, en fait, changer la Constitution, ce serait régler le problème à sa source, quoi.
Oui, complètement. Complètement. Bah, pas tous les problèmes, hein,
évidemment. Non, bien sûr.
En tout cas, le problème de démocratie qu'on a aujourd'hui, le fait que beaucoup de gens se désintéressent de la politique, beaucoup de gens en sont exclus, et que l'avis de la population n'a pas tellement d'importance dans les décisions qui sont finalement prises, ce problème-là serait réglé par un changement de constitution.
Comment convaincre en fait les gens, enfin la population, de vouloir changer cette constitution et donc de voter pour toi?
Ça dépend des gens. Ouais. Pour le coup, il n'y a pas une manière de convaincre tout le monde. Si seulement, ce serait beaucoup plus simple. Mais on parle, on discute. Hein, c'est toujours cette manière-là pour convaincre. Et alors après, j'ai un constat qui est quand même. La crise de régime, elle est difficilement contestable. Puis, le sujet sur lequel on peut débattre, c'est qui est légitime à réécrire une nouvelle constitution. Moi, je pense que c'est cet échantillon représentatif. D'autres pensent que ce serait des professionnels de la politique qu'on a aujourd'hui, donc des gens qui seraient élus, par exemple. Et sur ça, on débat, il y a différentes positions qui se valent. Et moi, à partir du moment où, pour moi, c'est nécessaire que ce soit un échantillon représentatif pour que toute la population soit vraiment représentée, parce que dès qu'on passe à travers une élection, forcément que ce sera biaisé. Il y a des gens qui parleront mieux que d'autres, qui présenteront mieux que d'autres, qui auront plus d'argent que d'autres pour financer leur campagne. Et donc des gens seront exclus de l'élection, et puis des gens s'intéressent à la politique et d'autres non. Des gens ont le temps, des autres ne l'ont pas. Et donc à chaque fois qu'on passe par une élection, on biaise. Mais en même temps, des gens sont d'accord avec le fait que ce soit biaisé. Et là, c'est juste une question de position qui diffère. Mais en tout cas, moi, ma manière de convaincre, disons, c'est parler au plus grand nombre. Donc, ça va être à des maires ou à des médias et puis à des amis. C'est comme ça que j'essaye de convaincre les gens un par un de se rendre compte du problème et de partager la solution que je propose.
Et donc, tu disais, cette constitution, elle serait rédigée par une assemblée constituante. Donc, un groupe d'individus qui serait un échantillon de la population. Comment sera faite cette sélection? Sur quels critères les individus seraient choisis? Est-ce que c'est une candidature? Comment ça peut marcher?
En fait, on catégorise la société.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on dit, OK, on la catégorise par sexe. homme ou femme, on la catégorise par tranche d'âge, on la catégorise par niveau d'études, on la catégorise aussi par niveau de revenu, par zone géographique dans laquelle on vit, est-ce qu'on vit en zone urbaine, périurbaine, est-ce qu'on vit en zone rurale, et ensuite le département dans lequel on habite. Donc en fait, on dit ok, d'accord, il y a 15% des gens qui habitent, je sais pas moi, en Seine-Saint-Denis, bon bah dans cette assemblée constituante, il y aura 15% qui viennent de Seine-Saint-Denis.
D'accord.
Et donc, en fait, on constitue une sorte d'échantillon représentatif. Donc, non, il n'y a pas d'élection. C'est des gens qui seront tirés au sort, un peu comme les jurés quand on va participer à un procès d'assises. Et ouais, en fait, c'est un fonctionnement qui fera en sorte qu'à la fin, on ait 500 ou plus de personnes qui représentent réellement la société dans son ensemble parce qu'ils sont présents dans toutes les composantes de notre société.
Ok. Oui, donc, ça ne posera pas problème, par exemple, qu'il y ait, je ne sais pas, quelqu'un qui est très marginal ou quoi, ne soit pas. Enfin, comment dire. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait différentes catégories qui ne soient pas du tout représentées parce que trop marginales ou que c'est quelqu'un qui est seul dans sa catégorie ? Enfin, je ne sais pas.
Ouais, ça, en fait, ça dépend du nombre de personnes qui, au final, sont choisies. C'est-à-dire que normalement, les conventions citoyennes, elles fonctionnent avec 150 personnes. Moi, j'aimerais que le minimum pour cette prochaine assemblée constituante, ce soit 500. Il faut d'abord préciser que les modalités, ce n'est pas moi qui les rédigerai, c'est une assemblée constitutionnaliste. Parce qu'en fait, il faut savoir combien de personnes c'est possible de réunir et que ce soit techniquement faisable, que chaque personne interagisse avec chaque personne. Donc ça, c'est compliqué. Si on monte à 100 000 personnes, ça va être compliqué de faire en sorte que chacun parle avec chacun. Et puis en plus, techniquement, réunir 100 000 personnes dans une salle, c'est compliqué. Donc du coup, il faut prendre le nombre maximum, mais qui permette quand même que l'assemblée se tienne. Si jamais on prend 10 000 personnes, on augmente le nombre de chances que chacun soit représenté. Si on en prend 100, là, il y a des chances que certaines catégories, elles, en effet, ne soient pas représentées. Mais si après on prend des échantillons assez larges, normalement même les populations les plus marginales sont représentées.
Est-ce que ça risque pas d'être difficile à gérer ? Enfin, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui s'occuperait de superviser cette assemblée ? Comment est-ce que tout le monde tombe d'accord ? Enfin, comment si c'est des gens par exemple qui n'ont jamais fait de droit ? Enfin, je sais pas.
Alors après, la durée joue en ma faveur, c'est-à-dire que la Constitution prend 2 ans à être rédigée. Le droit constitutionnel, c'est pas quelque chose qui est le plus complexe. Dans la Constitution, il y a 90 articles, donc 89. Mais donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de très large la Constitution. On est des questions très générales, beaucoup plus que la loi ordinaire. Et donc en 2 ans, chacun peut la maîtriser. Il n'y a pas de question d'expertise derrière. Maintenant, sur la supervision, alors ce sera encore une fois mis en place dans les modalités, mais toutes les conventions citoyennes à chaque fois sont supervisées. Voilà, il y a quelqu'un qui est nommé pour la superviser. Je crois que convention citoyenne pour le climat, c'était Cyril Dion, je crois. Mais même, il y en avait d'autres. Mais bien sûr qu'il y aura une supervision, bien sûr qu'il y aura une expertise aussi qui sera présente, des professionnels de la Constitution, des constitutionnalistes qui donneront leur expertise. Et puis ensuite, ce sera à l'Assemblée constituante de définir les orientations que la prochaine Constitution devra suivre. C'est pas juste des gens, on va pas mettre 500 personnes dans une pièce et leur dire « Ok, rédiger une Constitution ». Non, ce sera quelque chose d'assez encadré.
Et tu connais des personnes qui seraient capables justement d'administrer cette Assemblée ?
Malheureusement non. Je n'ai pas ce genre d'amis qui est expert en constitution. Alors après, je connais des constitutionnalistes, j'en lis pas mal. Je pense à Benjamin Morel, à Charlène Bézila, c'est des gens que j'aimerais voir dans la supervision d'une prochaine assemblée constituante. Mais non, je suis pas proche de constitutionnalistes, ni même de politique. Hein. D'ailleurs, c'est pas du tout un milieu dans lequel je suis. Mais j'espère que cette campagne me fera rencontrer des gens de ce milieu. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas moi qui vais décider de la supervision. Je vais pas dire, ah bah attendez, je connais telle personne, je l'aime bien, on va la choisir. Je serai complètement indépendant de ce processus-là. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de collision, disons, entre les deux.
Justement, ça me fait penser, le fait que tu ne baignes pas forcément dans ce milieu politique, est-ce que tu trouves que ça peut être un plus ?
Ça peut être un plus, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Pour les gens, oui.
Ouais.
Ce serait bien. Si j'étais fils de politique, je pense que ça le ferait moins bien. Il y a des gens qui me diraient, mais en fait, t'es comme ces mecs-là.
Ouais.
Mais par contre, c'est sûr au niveau contact. Par contre, c'est sûr. C'est-à-dire le fait d'avoir aucun contact dans les médias, le fait d'avoir aucun contact dans les politiques, ça rend la tâche beaucoup plus compliquée de faire parler sa candidature. On se débrouille comme on peut, hein, on envoie des mails, mais c'est une bonne galère. Donc ça me profite et ça me dessert, c'est un peu des deux.
Et donc tu disais que la Constitution, elle serait rédigée pendant 2 ans, mais qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 ans ? Est-ce que... le pays, enfin, il y aura toujours une assemblée nationale Et ça va, comment ça va tourner ?
Il y a toujours une Assemblée nationale, il y a toujours un Sénat. Les institutions de la 5e restent en place pendant ces 2 ans. Mm-hmm. Et c'est une sorte de période de cohabitation, disons, dans le sens où on a un Premier ministre qui est élu, mm-hmm. Qui sera nommé par moi, mais qui sera élu à l'issue des élections législatives. Et qui, du coup, va diriger le pays, gouverner, comme ce qu'on a connu avec Chirac-Jospin, ou alors avec Mitterrand-Chirac, ou Mitterrand-Balladur. C'est-à-dire que c'est des périodes où le président est assez en retrait, il a un rôle assez protocolaire. Mmh. On dit que c'est une cure de santé, la cohabitation pour le président de la République. Et c'est au Premier ministre de gouverner. Mais de toute façon, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Mmh. Hein, c'est au gouvernement de diriger la nation. Et on a connu des périodes de cohabitation bien plus longues, celle de Chirac et Jospin, qui était la plus longue, elle a duré 5 ans. Donc le pays est clairement préparé à, pendant 2 ans, avoir un Premier ministre qui est d'un bord politique et un président qui en est d'un autre. Et tout va tourner parfaitement, il n'y aura aucun souci.
Tu te définis plutôt à gauche, comme tu le disais avant. Est-ce que ce serait possible, du coup, que cette constitution, elle soit complètement en désaccord avec tes idées, que... parce qu'en ce moment, il y a une tendance... à l'extrême droite, mais est-ce que comment tu le vivrais, quoi?
Sur les sujets institutionnels, j'ai pas l'impression que la tendance soit à l'extrême droite. Ça dépend comment on définit la position institutionnelle de l'extrême droite, mais disons que j'ai pas l'impression que les Français veulent une dictature militaire. Une dictature, ça leur plaît pas. Donc en fait, je crois vraiment que cette constitution sera plus démocratique, mm-hmm. que celle qu'on a aujourd'hui. Sur ça, je m'inquiète pas trop. Je peux m'inquiéter, par contre, sur l'issue des élections législatives. C'est-à-dire que si jamais on a le Rassemblement National, qui est le premier parti de France, et qu'il est en tête aux élections législatives et qu'il a presque une majorité, je serais contraint de nommer le président du parti, donc le fameux Jordan, Premier ministre. Et c'est vrai que ce ne sera pas agréable. Mais bon, il faut se faire violence. Et puis, de toute façon, ce n'est pas comme si j'avais le choix. C'est-à-dire que même si c'est Mélenchon qui est élu président de la République, si jamais le RN a une majorité à l'Assemblée, il sera forcé de nommer le président du parti du Rassemblement National à l'Assemblée. Donc,
c'est
pas comme si j'avais le choix. Et je me ferais violence et tout ira bien. Mais je m'inquiète pas vraiment. J'ai l'impression qu'on survend un peu à quel point la population adhère au Rassemblement National. Quand on regarde des études sur qui permettent aux Français de s'exprimer avec nuance, de s'exprimer sur tout le monde, on remarque que le Rassemblement National est pas si aimé. Et puis même ça se voit dans le sens où c'est quand même, ils traînent de la farine et des œufs qui font des déplacements. On peut pas dire qu'il y ait un total engouement de la population française dans le Rassemblement National. Moi, je le vois quand je vois des maires, c'est une inquiétude qui est présente dans beaucoup de couches de la population. Donc, je m'inquiète pas trop sur ce que penseront les membres de cette assemblée constituante.
Oui, donc il y a pas.
Parce qu'après, il y a quand même une question démocratique aussi avec les élections législatives.
Oui, bien sûr.
Je fais une aparté, mais parce qu'en fait, faut bien comprendre que si jamais le Rassemblement National est élu aux prochaines élections présidentielles, c'est un scandale démocratique. En fait, on a un mode de scrutin qui s'appelle le mode de scrutin uninominal à 2 tours. Donc, en gros, on vote pour un nom. Au premier tour, il y a tout le monde et au deuxième, ça se précise. Ça dépend comment. En l'occurrence, pour l'élection présidentielle, il reste que 2 personnes à la fin. Et c'est un mode de scrutin qui ne permet pas aux Français de s'exprimer avec nuance et de s'exprimer sur tous les candidats. Et ça, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas pour qui tu votes. Si jamais je récupère ton bulletin et que je vois juste un nom dessus, je sais rien de ce que tu penses de la politique. Je sais qu'il y a quelqu'un que t'aimes bien, et encore, je sais pas à quel point, et je sais pas ce que tu penses de tous les autres. Alors que si jamais il y avait une grille, là je parle d'un mode de scrutin qui s'appelle le mode de scrutin à jugement majoritaire, qui a été inventé en 2014 en plus par des chercheurs français, et en fait t'as une grille d'appréciation avec 6 degrés d'appréciation, et tu t'exprimes sur tous les candidats où tu veux t'exprimer. Et donc là, si jamais je récupère ton bulletin et que je vois ce que tu penses de tout le monde, j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que tu penses. Et avec ce mode de scrutin-là, le Rassemblement National, comme il est tant détesté par une grande partie de la population, il ne gagne jamais. Et donc, le fait qu'on soit bloqué avec ce mode de scrutin-là, alors qu'en plus, il est dans la loi ordinaire, ça se change avec un vote à l'Assemblée. Il n'y a aucun parti qui le propose, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne m'engage pas dans les partis traditionnels, c'est que je ne comprends pas ce qu'ils font sur le terrain de la démocratie. Mais en fait, si jamais on change ce mode de scrutin-là, le Rassemblement National n'est pas élu parce qu'on permet à la population de mieux s'exprimer. Et donc, le fait qu'on rétrécisse la capacité d'expression de la population va nous faire avoir Marine Le Pen, peut-être, comme prochaine présidente. C'est absolument honteux. Et y a vraiment une question démocratique derrière ça qui n'est jamais assez posée, je trouve.
Et est-ce que, justement, un mode de scrutin comme ça, t'aimerais voir ça dans une potentielle 6e République ?
Disons qu'il y a différentes manières de désigner des élus. Moi, je suis quand même assez sceptique sur la capacité qu'a l'élection à permettre une représentativité. Je trouve que dès qu'on passe par une élection, on biaise. Et c'est pas forcément une bonne chose. C'est pour ça que dans mon assemblée constituante, enfin mon assemblée, je me prends pour qui, c'est pour ça que dans l'assemblée constituante que je propose, le mode de désignation, c'est l'échantillon représentatif. Pour moi, c'est la meilleure manière d'avoir des gens qui à la fois ont le temps de s'intéresser à la question qui leur est posée, mais qui aussi représentent la population dans son ensemble. Là, on le voit bien avec, par exemple, les élections législatives à l'Assemblée nationale, les cadres sont à peu près 70%, les ouvriers sont 2%, et y a, alors que les deux sont entre 10 et 12% dans la population réelle. Donc il y a des vrais soucis de représentativité. On peut faire pareil avec la représentativité homme-femme, par exemple. Les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes à l'Assemblée nationale, et encore pire au Sénat, et encore pire quand on parle de la présidence de la République. Donc la capacité qu'a l'élection à permettre une représentativité, disons que je la remets en cause. Et j'aimerais bien qu'on voit d'autres manières de choisir des représentants politiques. Mais si on reste avec l'élection, oui, il faut changer le mode de scrutin, c'est certain. Il faut le changer. Je trouve ça absurde de garder un mode de scrutin qu'on sait défaillant. Le problème, c'est que les gens qui peuvent le changer, c'est les gens qui sont élus à travers ce mode de scrutin. Donc on est mal barré. Mais c'est un changement qui est nécessaire à faire si on reste avec l'élection, ça c'est une certitude.
Je propose de parler des parrainages. T'es parti en quête de parrainage, il en faut 500 et c'est des maires qui les fournissent. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des bons retours? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que tu as l'impression que tu peux arriver à tes fins? Comment tu le ressens?
Moi j'y crois. Okay. J'y crois pour essayer d'arriver à ses fins. Je ne reprends pas mes études l'année prochaine, donc mm-hmm. Je suis parti pour 2 ans complètement. Okay. Je suis à fond dans ce truc parce que j'ai l'impression qu'il y a une chance. Maintenant, les retours ils sont différents, ça dépend du maire qu'on rencontre, mais je m'approche d'une trentaine de promesses de parrainage, donc ce qui est quand même cool sur 6 mois de campagne avant les élections municipales. Et donc c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, on verra bien comment ça se passe. Mais ouais, moi j'y crois toujours. Et puis cette quête de parrainage, elle est évidemment compliquée. Hein. C'est-à-dire que ça se résume à envoyer des mails à toutes les mairies de France, d'attendre des réponses, de convenir d'un rendez-vous, et puis ensuite d'avoir un entretien avec le maire pendant à peu près 1 heure et essayer de le convaincre de filer le parrainage à la fin. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai une bonne stat que sur les 40 maires que j'ai rencontrés pour l'instant, j'en ai convaincu une quinzaine. Donc les autres 15 maires dont je te parlais avant, c'est des gens que j'ai pas encore rencontrés.
D'accord.
Donc mais c'est des gens avec qui je suis en contact, parce que du coup à chaque fois, disons qu'il y a des amis qui me disent « Ah, mais attendez, ma grand-mère, elle connaît un maire », et puis ensuite des fois ça aboutit sur un parrainage, donc on verra bien ce que ça donne. Mais j'arrive à convaincre à peu près la moitié des maires que je rencontre. Donc si j'arrive à rencontrer les 42 000, ça me fera quand même 21 000 parrainages, ce qui est largement suffisant. Mais disons que pour avoir 500 parrainages, il faut que je convainque un maire sur 84. Et si j'arrive à médiatiser le projet assez pour que tous les maires en entendent parler, je pense que ça va le faire. Mais j'en suis certain.
Et comment ça marche, un parrainage? C'est un papier signé avec écrit j'approuve. Enfin, comment ça marche? C'est une question.
Ouais, c'est un papier que les maires doivent signer, mm-hmm. Et puis ensuite je crois que c'est au Conseil constitutionnel. Non, c'est au Conseil d'État. Et en fait, la période de déposition des parrainages, c'est entre décembre et février 2027. Donc elle n'est pas encore ouverte. Ce qui veut dire que jusqu'à ces dates-là, je suis que sur des promesses. Donc je tire la main de monsieur ou de madame la maire, et okay. Elle me promet ou il me promet de me donner un parrainage. Donc ça se base pour l'instant sur la confiance, mais c'est qu'en décembre que j'aurai vraiment des parrainages.
J'ai vu aussi dans certaines interviews que tu parles de Martin Roca, qui a été candidat à l'élection présidentielle de 2022. Il était comme toi sans parti, et lui pour le coup n'avait pas de programme. Tu t'inscris dans sa suite, c'est un peu une sorte de modèle, quelqu'un que tu as envie de suivre?
C'est quelqu'un que j'aime bien, que ouais. J'apprécie. C'est pas vraiment un modèle, pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc j'espère faire mieux. Sur le projet, on a des désaccords, on le défend pas de la même manière. Mais en gros, pour raconter la petite histoire, moi quand j'ai 16 ans, je commence à m'intéresser à ce projet, et sur Internet, je tombe sur lui. Et du coup, je l'ai contacté, et puis on a bu un café ensemble, Et de base, moi, je me disais, mais en fait, je vais le soutenir pour sa prochaine présidentielle. Mmh. Et en fait, il ne va pas se représenter. Et donc, du coup, je suis face à un dilemme. Est-ce que je me présente à sa place ou est-ce que je ne fais pas ça et je continue ma vie? Et j'ai choisi de me présenter. Et voilà, donc de base, ce n'était pas prévu que je me présente et finalement, ça s'est fait.
Et aussi, le nom de ton projet, enfin, parti, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler.
C'est un parti politique.
C'est ton parti. Ok.
Ouais.
Ça s'appelle Trajectoire et ça vient d'un titre de Népal. Est-ce que tu peux un peu plus expliciter le choix de ce nom?
Ouais, bien sûr. Bah, Népal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rappeur, c'est mon rappeur préféré. Il est très connu pour un projet qui s'appelle Adios Bahamas. Mmh. Et dans ce projet, il y a un son qui s'appelle Trajectoire. Et Trajectoire, c'est un son où à la fin, on entend un penseur suisse qui s'appelle Nassim Haramein nous dire que pour que le monde devienne ce qu'on veut qu'il soit, disons, il faut pas se concentrer sur la négativité, il faut pas, disons, se morfondre dans les théories les plus négatives et qu'il faut être armé de joie de vivre et de positivité pour que le monde ne devienne pas ce qu'il est aujourd'hui. Je l'ai expliqué avec des mots un peu compliqués, mais en gros, l'idée, c'est juste de porter de l'espoir et de faire en sorte de ne pas répéter les erreurs du passé qui nous ont menés à la situation actuelle. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et puis même toute la figure de Népal, moi, c'est un artiste qui est très important pour moi. Et du coup, j'aimais bien le fait de mettre comme nom du parti un nom d'un de ses sons qui est en plus un de ses meilleurs. Puis en plus, j'aime bien l'idée de dire qu'on va rectifier la trajectoire. Je trouve que c'est une belle formule. J'aime bien ce nom. Je trouve qu'il représente bien ce que je veux faire.
Eh bien, écoute, merci Manolo d'avoir répondu à mes questions.
Avec plaisir.
On te souhaite forcément bonne chance dans cette quête de parrainage qui est longue et fatigante, j'imagine.
Ouais,
on peut donc suivre ton compte Instagram et tu as aussi un site trajectoire2027.fr. Écoute, merci à toi. Je te souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux et bien avant que ça reparte en
et on a noyé dans des lits d'essence le souvenir borgne de l'innocence en équilibre sur un fil de feu comme une corde à pendre au cou des fourgons bleus. C'est ni le pied ni la gloire qu'on tout crame. C'est même pas une réponse à la hauteur du drame. Mais c'est comme ça, c'est tout ce qui reste. Quand le quartier fait même peur à la peste. Ma vie, mon cœur ne flanche pas. Mon père, ma mère ne pleuraient pas. Si on se jette dehors avec le diable au corps, c'est qu'on refuse de vivre sans honorer nos morts.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors? Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors?
On n'a pas rendu l'âme, ni les armes. Regarde-moi bien, je suis la preuve que les frères sont craints. Voilà ce qu'on craint de nos mains, ce que l'on sait faire de mieux. Depuis que l'homme a découvert le feu. L'avenir ne me dit rien et c'est réciproque. Les cons dépissent dans leur froc. Sais-tu ce que m'évoque la fuite en vrac? Les nerfs au contact des flammes comme des cailloux de crack. Repliés sur nous-mêmes, quitte à trouver seuls des solutions à nos problèmes. Qu'attendons-nous du système? À part ces euros, de loin la pire des gueudrons.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors? Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors?
Ils m'ont parlé des 30 glorieuses. Dois-je les avertir que la suite sera laborieuse? Purée, ils n'ont pas fait que jurer notre perte. Censurer nos têtes, murer les portes et déclencher l'alerte. Quel sera le prochain à laisser des plumes sur le goudron? Quand pour un frangin abattu, ils diront ce qu'ils voudront. Il n'est plus question de calme. Pleurer, c'est pas notre cas, mais l'air est au napalm. Qui sont les rats de laboratoire qui vont bouffer du rab? Prisonniers du sous-développement durable. Vrais monstres, élevés dans les ronces. De ces sales races qui n'ont pas les réponses.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors? Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue.
qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore,
qui veut nous foutre dehors. 97, 2007, déjà 10 piges que la rumeur vous jette le tort. Qui ça étonne encore,
hein?
Alors encore plus fort pour encore plus de Delport.
C'est la fin de cette émission. Nous avons écouté Qui ça étonne encore de la rumeur. Vous pourrez réécouter cette émission en rediffusion demain de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.
Présenté par Eve Martin.